Les Noirs américains sont particulièrement doués en sport et en musique. Ils ont inventé le blues qui a inspiré le rock'n'roll. Mais avant cela, quand ils étaient esclaves, ils chantaient ce qu'on appelle les Negro Spirituals, synthèse d'une musicalité africano-occidentale avec des paroles chrétiennes. Quand j'étais jeune, j'ai dansé sur Oh Happy Day sans en comprendre les paroles. Un autre Negro Spiritual célèbre s'appelle Them Bones, ses os. Et il est tiré d'un passage du chapitre 37 d'Ézéchiel dont le thème est la renaissance d'Israël en tant que nation et au niveau spirituel. Je commence à le lire. « La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. » Verset 1. Cette vision est tout aussi fantastique que la première qu'Ézéchiel a eue lorsqu'il a contemplé une image de la gloire de l'Éternel. La vision de ce chapitre est dans le prolongement de la promesse que Dieu a déjà faite au futur Israël, comme quoi il aura un nouveau David pour roi, comme quoi il verra son identité nationale rétablie et sera spirituellement renouvelé pour entrer dans une ère de prospérité et de gloire. Mais quand cette prophétie fut donnée, les seuls vestiges de cet Israël qui allait renaître de ses cendres, pour ainsi dire, se composaient de quelques colonies dispersées en pays païens. Aussi, les auditeurs d'Ézéchiel lui disaient « Notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée ». Pour répondre à ce découragement, l'Éternel va montrer au prophète la renaissance nationale et spirituelle de son peuple. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une résurrection des morts comme nous l'entendons, surtout que dans l'Ancien Testament, l'idée qu'un corps pouvait revenir à la vie n'était pas une doctrine répandue. Ézéchiel est transporté de façon surnaturelle dans une sphère supérieure afin d'assister à la scène que lui présente l'Esprit Saint. Pour Dieu, ce n'est évidemment pas un problème d'emmener son prophète où bon lui semble, avec ou sans son corps. Quand l'apôtre Paul parle d'une expérience similaire qu'il a faite, il avoue ne pas savoir au juste ce qui s'est passé. Je lis le passage. « Je connais un homme, un chrétien, qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Ou sans son corps? Je ne sais. Mais Dieu le sait. » Je continue maintenant le texte. « Il me fit promener sur eux en tous sens, et je constatai que ses ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. » Verset 2. En 1849, deux hommes courageux ont traversé la vallée de la mort en Californie pour apporter des vivres à une expédition qui s'était perdue dans ce lieu maudit. Ces hommes étaient les premiers blancs à effectuer ce périple. Et s'ils n'avaient pas pu être ravitaillés, ils auraient tous péri. Ce qu'Ézéchiel a vu est plus sinistre que la vallée de la mort et défie l'imagination. La plaine où Dieu l'a emmené ressemblait à un champ de bataille qui avait été jonché de cadavres. Mais avec le temps, les squelettes même avaient disparu et il ne restait plus que des os desséchés et dispersés ici et là. Ce spectacle lugubre représente la nation d'Israël après la destruction de Jérusalem. Le royaume de Juda est comme une armée vaincue, anéantie et en plus frappée d'une grande opprobre puisque ses combattants ont été abandonnés sur le champ de bataille sans sépulture. Je continue. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 3. Cette question de l'Éternel à Ézéchiel est exactement celle que les Israélites se posent au fond de leur cœur. Ils se demandent s'ils ont encore un avenir. La réponse du prophète signifie que dans une perspective humaine, il n'est effectivement pas possible que ces ossements revivent. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Je continue. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Versets 4 à 6. D'habitude, seuls les gens qui n'ont pas toute leur tête parlent aux objets inanimés. Cependant, Moïse écrit, « Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel ?» Et Jérémie dit, « Ah, Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance, et en déployant ta force, Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Et encore, oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Dans le Nouveau Testament, quand l'ange Gabriel s'est adressé à la Vierge Marie, il lui a rappelé que rien n'est impossible à Dieu. Ramener à la vie des eaux desséchées n'est donc pas une difficulté pour le Tout-Puissant. Quand le prophète dit aux ossements « Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez », le mot hébreu pour esprit, comme d'ailleurs son équivalent en grec, a plusieurs significations. Il veut dire l'esprit de Dieu qui donne la vie, le principe de vie en chaque être vivant, la respiration, le souffle, l'esprit rationnel de raisonnement et aussi le vent ou l'air. Dans le cas présent, c'est le principe de vie avec tout ce que cela représente qui est désigné ainsi. Dieu seul donne la vie et si quelqu'un est sauvé et reçoit la vie éternelle, c'est un miracle qui est exclusivement dû à une manifestation de la grâce divine. Quand les disciples ont demandé à Jésus « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Je continue le texte. « Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un son puis un bruit retentissant en même temps qu'un mouvement se produisait et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. » Verset 7. Alors qu'Ézéchiel parle, ce qu'il dit s'accomplit sous ses yeux parce que ses mots déclenchent la puissance créatrice de Dieu qui veille à ce que sa parole s'accomplisse. Il y a d'abord un son qui est dû au mouvement impromptu de tous ces eaux inanimées, puis alors qu'ils s'emboîtent les uns aux autres, ils produisent un bruit très fort. Soit dit en passant que cette scène des eaux qui se rapprochent et reconstituent un squelette est très bien exprimée par le négro spiritual Dembones. Je continue le texte. « Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair et qu'une peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. » Verset 8. D'une fois reconstitués, ces squelettes se couvrent de muscles qu'enveloppent aussitôt une chair revêtue de peau. Mais cette vallée est maintenant remplie de cadavres sans vie. Je continue. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. » Versets 9 et 10. Cette recréation a lieu en deux temps. Tout comme la première création de l'homme, l'Éternel avait alors fait pénétrer un souffle de vie dans le corps d'Adam formé à partir de la poussière de la terre. Ici, c'est son esprit qui, semblable au vent, entre dans ses squelettes gisant sur le sol et leur rend la vie. À cet instant, il se lève comme un seul homme, prêt à l'action. Je continue. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, notre vie est brisée. » Verset 11. C'est ce que les exilés disaient à Ézéchiel une fois le royaume de Juda détruit. Il leur paraissait absolument impossible que leur peuple soit à nouveau rétabli. Ils sont passés d'un extrême à un autre. Tandis que Jérusalem était debout, ils prêtaient l'oreille aux prophètes de mensonges et nourrissaient de faux espoirs. Mais maintenant qu'ils avaient sombré dans le désespoir, ils se comparaient à des eaux desséchées. L'Éternel s'était servi des commentaires morbides des Israélites exilés, découragés et abattus pour créer cette scène de résurrection afin de leur redonner espoir. Je continue. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous donnerai du repos. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, l'Éternel, le déclare. Versets 12 à 14. Les tombes représentent l'Empire babylonien, où les Juifs sont à la fois dispersés et captifs. Cette prophétie d'Ézéchiel annonce la restauration d'Israël qui se fera en deux étapes. D'une part, le retour de l'exil qui correspond à la reconstitution des squelettes qui se couvrent de chair, et d'autre part, la vivification intérieure opérée par l'Esprit qui correspond au souffle de vie de Dieu qui a pénétré les corps inertes afin de les rendre à la vie. La première étape a commencé à se réaliser à partir de 538 avant Jésus-Christ, au moment du retour de l'exil. Cependant, les Israélites furent et sont encore dispersés. C'est la diaspora. Il est vrai que l'année 1948 fut pour eux comme un nouveau retour d'exil, car ils créèrent alors un nouvel État en Palestine où pour le moment ils sont assez bien ancrés. Cependant, l'œuvre de vivification de l'esprit n'a pas encore eu lieu à l'échelle nationale, ce qui fait que, spirituellement parlant, les Juifs dans leur ensemble sont toujours des cadavres. La Pentecôte qui vit la naissance de l'Église a marqué le début de la seconde étape de la prophétie d'Ézéchiel, celle de la vivification de l'esprit, car les premiers croyants étaient israélites et ils ont été ramenés à la vie en Dieu. Quant à ceux d'origine païenne, comme moi, qui font partie de l'Église, ils profitent simplement de la grâce de Dieu qui est accordée, premièrement, aux Juifs. Ce n'est qu'à la fin des temps que tous les descendants d'Abraham qui auront survécu à la grande tribulation accepteront, enfin, comme leur Messie et Sauveur, Jésus-Christ, et entreront dans le millénium. Ce sera comme une résurrection des morts, mais spirituelle. Et l'accomplissement véritable et total de cette prophétie d'Ézéchiel. Je continue. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prends une tablette de bois et grave dessus pour Juda et les Israélites qui en font partie. Puis tu prendras un autre morceau de bois sur lequel tu inscriras pour Joseph. Il représentera Éphraïm et tous ceux de la communauté d'Israël qui en font partie. Ensuite, tu joindras les deux morceaux l'un à l'autre pour n'avoir qu'une pièce unique, en sorte que les deux morceaux n'en fassent qu'un dans ta main. Versets 15 et 16. C'est un mime prophétique. Juda et Joseph représentent les deux anciens royaumes du sud et des 10 tribus du nord, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël qui, dans le millénium, sera réuni sous le sceptre unique du nouveau David. Je continue. Lorsque tes compatriotes te demanderont « Explique-nous ce que cela signifie », tu leur répondras « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais prendre le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui en font partie. Je le placerai contre le bois de Juda et je ferai des deux un seul morceau. Ils seront un dans ma main. » Versets 18 et 19. La tribu d'Éphraïm, un des fils de Joseph, dominait le royaume des 10 tribus. Le bois qui représente le royaume du Nord est joint à Juda et non pas l'inverse, car Juda est la tribu choisie par Dieu pour exercer la royauté. Comme les deux bâtons ne forment qu'un dans la main du prophète, les deux royaumes en formeront un seul dans la main de l'Éternel quand il exercera le pouvoir en la personne du Messie. Je continue. Tu garderas en main, bien visible pour eux, les morceaux de bois sur lesquels tu auras fait ces inscriptions et tu leur diras « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais prendre les Israélites du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de tous les pays alentour, je les ramènerai dans leur pays et je ferai d'eux une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. » Versets 20 à 22. Cette prophétie annonce le retour de l'exil babylonien et le rattachement à la Judée de la Galilée, un ancien territoire du royaume du Nord, des 10 tribus sécessionnistes. Je continue. Un roi unique régnera sur eux tous. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs par le culte rendu à leurs idoles et à leurs divinités abominables et par toutes leurs transgressions. « Je les sauverai de tous les péchés qu'ils ont commis, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Il sera l'unique berger pour eux tous. Ils vivront selon mes commandements et obéiront à mes lois pour les appliquer. Versets 22 à 24. Ici encore, il est question du règne du Messie, le Christ roi et le nouveau David. Un jour, Jésus a dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Par ces paroles, Jésus reprenait le thème du berger unique où le troupeau unifié regroupe les brebis juives et celles d'origine païenne. Le Messie réalisera une œuvre d'unification du peuple de Dieu, semblable à celle accomplie par le premier David qui, au début de son règne, avait dû surmonter la division entre la tribu de Juda et les 10 tribus israélites du Nord. Je continue. Ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et dans lequel ont vécu leurs ancêtres. Ils y demeureront, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera pour toujours prince sur eux. Verset 25. Les mots prince et roi sont utilisés comme synonymes et désignent le Messie, le nouveau David. Ceci dit, il est aussi possible que le premier roi David, celui qui a déjà régné sur Israël et qui est mort, sera ressuscité et jouera un rôle pendant le millénium. Seulement, on ne sait pas lequel parce que dans les Écritures, le nom David est aussi un titre dynastique qui est souvent utilisé pour Jésus-Christ le Messie. Le mystère demeure donc entier. Comme a dit Moïse au peuple d'Israël, « Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé. » Je continue le texte d'Ézéchiel. « Je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. » Verset 26. La gloire divine qu'Ézéchiel a vu quitter le temple de Jérusalem reviendra. Plus loin dans le livre, le prophète donne de très nombreux détails sur le nouveau sanctuaire et comment il fonctionnera durant le règne de Jésus-Christ sur terre. Je continue. « Ma demeure sera près d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Verset 27. Ce langage est celui de l'Alliance. L'expression « je serai leur Dieu » apparaît une première fois quand l'Éternel a fait une promesse à Abraham concernant sa descendance. Puis Dieu l'a répété aux Hébreux par la bouche de Moïse. Plus tard, les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Zacharie la reprennent également. Enfin, on la trouve deux fois dans le Nouveau Testament, mais comme reprise de la promesse divine faite sous le régime de l'Ancien Testament. Il est évident que si l'Éternel a créé l'homme, c'est pour être son Dieu. Je finis le chapitre 37. « Et les autres nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui fait d'Israël un peuple saint en plaçant mon sanctuaire pour toujours au milieu d'eux. » Verset 28. En plaçant le temple au milieu d'Israël spirituellement renouvelé, l'Éternel le rendra saint. Cette nouvelle caractéristique du peuple élu sera évidente, ce qui fait que les nations reconnaîtront en l'Éternel le seul vrai Dieu. Il va sans dire que le monde d'aujourd'hui est bien loin de cette situation idyllique. À l'origine, selon le plan de Dieu et sous le régime de l'Ancien Testament, Israël aurait dû devenir un peuple saint et ainsi produire la conversion des nations païennes. Mais comme tout au long de son histoire, Israël a rejeté l'Éternel, l'ordre a été inversé. Les premiers, c'est-à-dire les Juifs, sont devenus les derniers, car ce sont les païens qui de loin sont majoritaires dans l'Église. Cependant, un jour, après la grande tribulation, les rescapés juifs se convertiront aussi. Alors, ceux qui sont actuellement les derniers, c'est-à-dire les Juifs, redeviendront les premiers, et l'ordre initial sera rétabli. Lorsque cela aura lieu, quand tout Israël se convertira à Jésus-Christ, les répercussions sur le reste du monde seront tellement phénoménales que l'apôtre Paul les compare à une résurrection d'entre les morts. En attendant ce jour, le monde dans lequel vous et moi vivons est une vallée de larmes et une vallée de la mort, un immense cimetière rempli d'ossements desséchés. Ce n'est évidemment pas ce que pensent les gens qui croient profiter de la vie. Mais selon Dieu, ce sont des morts vivants, des zombies spirituels. L'apôtre Jean écrit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Il existe deux sortes de personnes sur terre, les morts vivants et les bien vivants. Jean écrit encore « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu. » Ceux qui n'ont pas personnellement accepté Jésus comme leur sauveur sont spirituellement morts. Nous avons besoin d'un Ézéchiel qui dise « Ô desséchés, entendez la parole de Dieu afin que vous viviez ».